Vous écoutez
RMC.
L'Europe finit par mettre un coup de frein à son objectif de passer au 100% électrique d'ici 2035. Bonjour Fabrice Godefroy.
Bonjour.
Vous êtes expert mobilité et environnement. Vous représentez l'association 40 millions d'automobilistes. Tout ça pour ça.
Alors c'est pas une reculade.
Pas totalement sauté, mais disons que
c'est plutôt un assouplissement
qui était inscrite dans le marbre. Tout le monde devait se confondre à tout cela. On devait se mettre au garde à vous, les constructeurs, les acheteurs, les concessionnaires. Et finalement, cette date, elle est en train de s'assouplir.
Enfin, je vous rappelle que c'est quand même pas une surprise parce que quand ça avait été voté, juste derrière, on avait dit qu'il y aurait une clause de revoyure qui devait être en 2026. Donc effectivement, on savait déjà qu'il va falloir mettre le curseur au bon endroit pour des problèmes industriels et pour des problèmes pour les automobilistes.
Les automobilistes ne s'étaient pas vraiment mis à acheter massivement électrique, ou en tout cas pas suffisamment. Est-ce que, au moment où on se parle, c'est quand même un soulagement, même si vous l'anticipiez ?
Oui, parce qu'au final, c'est l'automobiliste qui fait son choix au niveau de l'achat de la véhicule. Parce qu'on a beau les politiques décider d'une façon unilatérale de les pousser vers du 100% électrique, les constructeurs ils vont avec évidemment des contraintes industrielles qui sont extrêmement importantes, parce que aujourd'hui, faut pas se cacher, la Chine a toute la chaîne de valeur sur la voiture électrique, que ce soit de l'extraction des matières premières, le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, la fabrication des batteries, ils sont archi-leaders. Et derrière, il faut que l'industrie européenne, parce qu'on est dans un pays constructeur, notamment en France ou en Allemagne, ne se trompe pas sur le sujet. Donc ça, c'est le sujet industriel. Et les automobilistes, aujourd'hui, la grande majorité achète plutôt des hybrides, parce que c'est le meilleur compromis.
Ils sont autorisés, hein. Qui reste autorisé au moment où on se parle, a priori.
Alors, qui ne l'était pas dans la mouture initiale et qui pourrait être repoussé donc en 2035 aussi sur les hybrides. Et effectivement, alors les ventes de voitures électriques progressent, ça il n'y a rien à dire. On est à 19% au cumul au niveau des ventes,
oui,
aujourd'hui.
19%, ça ne fait pas 100% quoi.
Oui, mais c'est quand même une progression. Par contre, effectivement, on n'est pas dans la trajectoire souhaitable pour arriver à 100% de moins de 10 ans.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui fait que quand on achète une voiture, on hésite à acheter de l'électrique ?
Parce qu'une voiture électrique, c'est très très bien, mais c'est pas adapté à tout le monde. Aujourd'hui, pour acheter une voiture électrique, il faut être ce qu'on appelle électrocompatible. C'est-à-dire qu'il faut avoir une borne de recharge chez soi, à son domicile, c'est idéal. Il y a un chiffre qui est quand même intéressant, c'est que 90% des recharges aujourd'hui se font au domicile ou sur le lieu de travail. Donc c'est très clair que d'une façon paradoxale, il est plus facile d'avoir une voiture électrique dans une maison individuelle que dans un centre-ville, à l'endroit où justement on veut dépolluer par les voitures électriques.
Frédéric voudrait justement témoigner, il nous appelle au 32-16 de la Loire. Bonjour Frédéric.
Bonjour Apolline, bonjour à vos éditeurs.
Frédéric, comment ça va ? Vous êtes vous-même propriétaire d'une voiture électrique. Racontez-nous, ça marche comment ? Vous la rechargez où et vous faites combien de kilomètres ?
Alors, c'est pas difficile, je suis pas propriétaire, je suis ambulancier, ça fait 2 ans que je roule avec une voiture électrique et
d'accord,
je fais mes 500 kilomètres par jour. Alors, où je suis pas d'accord, c'est sur le recharge des voitures. Même à la maison, on n'est pas obligé d'avoir une borne. J'ai déjà testé sur une simple prise à la maison. Ouais. Ça marche très bien. Simplement, il faut 12 heures pour recharger la voiture. Et comme je dis, la nuit, on ne roule pas en dehors. Donc, c'est pas un problème pour les gens qui ont des problèmes de ce côté-là. Donc, je fais 500 kilomètres par jour. Je l'ai fait largement et je trouve de quoi recharger sans aucun problème. Sur une borne ultra rapide, il faut recharger la voiture à 90%. Il me faut 10 à 15 minutes.
Donc vous n'avez jamais eu de crainte ? Vous vous êtes jamais retrouvé à vous dire « oulala, je ne vais pas y arriver ».
Non, pas du tout, parce que même les 3/4 des voitures sont quand même équipées d'un logiciel qui vous permet de vous mettre le parcours que vous voulez.
Ouais.
Et si vous n'avez pas assez pour faire toute la route, il vous indique où vous pouvez vous arrêter pour faire une recharge. Donc il n'y a pas de problème.
Même quand vous avez les patients dans l'ambulance?
Alors, c'est jamais arrivé quand j'ai des patients dans les ambulances parce que, je vous dis, je fais entre 350 et 500 bornes par jour. Donc, j'ai de quoi emmener la personne à son rendez-vous à l'hôpital où j'ai pas de soucis de ce côté-là.
Donc, et après, techniquement, ça marche. Économiquement, c'est un gain.
Oui, mon patron me dit qu'il fait entre 7 000 et 10 000 euros d'économie de gasoil par rapport à la voiture que j'avais il y a 2 ans derrière.
Ah bah franchement, non mais votre témoignage est très intéressant parce qu'en plus, voilà, il peut pas se permettre de se retrouver en rade, Frédéric.
Ah, c'est très clair, mais bon, il est au niveau du nombre de kilomètres, 300, 400 kilomètres, donc c'est tout à fait jouable. J'ai entendu qu'il rechargeait chez lui, pas avec la une nuit. Borne de recharge, mais avec une prise électrique, donc c'est ce que je disais, électrocompatible. Et par contre, ce qui était intéressant, c'est de dire qu'effectivement, aujourd'hui, on fait des économies sur la voiture électrique et sur la recharge électrique par rapport au carburant. Par contre, il faut pas rêver. On sait très bien, aujourd'hui, sur les taxes sur les carburants, il y a à peu près 60% de taxes. Ça rapporte plus de 40 milliards d'euros à l'État. Le jour où les gens vont tous passer en 100% électrique, est-ce que vous pensez que l'État va se passer des taxes sur les carburants ? Bien sûr
donc
que non.
Ils vont remettre la taxe ailleurs.
Il y a bien un moment, et d'ailleurs il y a des pays qui sont déjà là-dessus, et qui travaillent sur des taxes au kilomètre, et donc ça va finir par arriver.
Donc vous redoutez qu'il y ait une sorte de vase communicant des taxes ?
Il y aura forcément. Pour l'instant, c'est pas le cas, parce que le parc roulant, c'est 3% du parc roulant, c'est 19% des ventes, mais 3% du parc roulant. Mais le jour où ça va grossir, il est bien évident que l'État va pas se passer.
Il y a la question des taxes d'un côté, et il y a la question des aides de l'autre. Vous parliez oui. de la Chine. La Chine, elle produit, mais de manière gonflée, j'allais dire, parce qu'il y a des aides dans tous les sens aussi, y compris pour son industrie. Ici, aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'on se perd dans les bonus. On ne sait plus à quoi on peut prétendre. Est-ce que les aides à l'achat de la voiture électrique sont suffisantes?
Alors le problème, c'est qu'elles sont sans arrêt en train de surtout changer, évoluer. C'est extrêmement compliqué. On avait un bonus écologique, maintenant c'est la prime coup de pouce. C'était l'État qui le finançait, maintenant c'est le certificat d'économie d'énergie. Ça aura certainement des répercussions d'ailleurs sur les taxes, sur les carburants derrière, parce qu'il va falloir récupérer ça. Et puis il y a le leasing social qui fonctionne. D'ailleurs, ça a dopé les ventes ces deux derniers mois. Mais c'est sûr que tout ça, ça évolue. Mais c'est des voitures donc qui sont vendues aujourd'hui à coup de subvention. Donc on voit très bien que c'est pas si simple que ça.
Et si on enlève les subventions, évidemment, les ventes chutent. Un mot aussi sur les voitures chinoises, vous en parliez à l'instant. Aujourd'hui, ça représente autour de 7% du marché européen. C'est des BYD, c'est des Chery. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle, qu'elles soient là pour le consommateur, ou est-ce que ça vous inquiète ?
Alors, pour le consommateur, pourquoi pas? Pour l'industrie automobile française et européenne, pas forcément. Et en plus, là, vous citiez BYD. BYD, c'est quand même une particularité. Et BYD, c'est non seulement un fabricant leader de batteries, donc ils sont équipementiers.
Donc ils font toute la chaîne,
mais ils sont aussi fabricants de véhicules. Donc, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui va être extrêmement important dans quelques années.
Merci beaucoup, Fabrice.
Avec plaisir. Je
crois d'être venu dans ce studio Expert Mobilité et Environnement pour l'association 40 millions d'automobilistes. Et merci à Frédéric pour son témoignage particulièrement éclairant. Ce matin, il nous appelait de la Loire.